Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du Studio Kalangou qui sont diffusés sur 38 radios partenaires disséminées dans toutes les régions du Niger. Bienvenue dans le forum hebdomadaire de la presse qui reçoit des journalistes de la presse écrite locale ainsi que ceux de l'audiovisuel pour analyser l'actualité de la semaine. Les principaux sujets autour desquels nous discuterons dans ce forum sont d'abord au plan sécuritaire, les attentats déjoués à Difa et à Niamey le week-end dernier et le séjour du ministre nigérien de la Défense aux côtés des soldats stationnés non loin de la frontière avec le Mali. Et sur un tout autre plan, nous parlerons de la mise en garde de la ville de Niamey relativement aux règles d'hygiène à respecter dans le transport de la viande. Autour de la table pour en discuter, nous recevons nos confrères Eladj Souleymane Mahmadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Souleymane, bonsoir.
Bonsoir.
Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Monsieur Hassan Boukar, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous attendons d'un moment à l'autre Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse que nous débutons par un sujet de sécurité. À l'approche de la fête de l'Eid al-Fitr, plusieurs actions terroristes ont pu être déjouées. D'abord à Difa où le dimanche 2 juin, 4 personnes suspectées de vouloir mener des attentats ont été neutralisées. Selon l'un de nos correspondants à Difa, un premier individu a été neutralisé à la devanture de la SONIDEP, un deuxième à côté de l'aéroport et les deux autres à 300 mètres d'une barrière de police à la sortie de Difa. Et à Niamey également, selon un communiqué du ministère de la Défense du Niger, un groupe de 5 personnes, dont des terroristes avérés, a été arrêté au quartier aéroport. Selon d'autres sources, ce sont 53 terroristes qui ont été neutralisés par les forces nigériennes ces derniers jours. Je commencerai tout de suite avec vous, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Quelle appréciation faites-vous des actions qui ont permis de mettre hors d'état de nuire les terroristes et à quoi, selon vous, cela est dû?
Bon. Merci beaucoup. Si on parle d'attentats déjoués, ça laisse croire qu'il y a quelque chose qui s'est mis en marche, probablement les renseignements, puisque pour pouvoir déjouer, cela suppose qu'on est informé à l'avance et on prend des mesures pour que ces attentats n'aient pas lieu. Donc il y a peut-être aujourd'hui un investissement dans les renseignements, de façon à ce qu'on puisse connaître à l'avance l'action de ces groupes terroristes et de pouvoir prendre des mesures afin que leur acte de sabotage ne puisse pas avoir lieu. C'est vrai que ça montre aussi que cette menace, elle est bien présente. Hein. Il y a eu toutes ces attaques contre les FDS. Mais si on parle de cas de terroristes neutralisés devant les dépôts de la SONIDEP à Difa, ça veut dire qu'ils ciblent aussi d'autres objectifs, des objectifs bien précis, comme les dépôts d'hydrocarbures, justement qui sont des endroits très sensibles. Et si on a pu les neutraliser, ça veut dire que justement on a su que c'est des dépôts comme ceux de la SONIDEP peuvent être des cibles, donc il fallait prendre des mesures à l'avance afin que les terroristes ne puissent pas s'en prendre à ça. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est peut-être des attaques des jeux à Niamey. C'est vrai que la ville de Niamey a déjà connu des attaques même en plein midi, rappelez-vous de l'attaque de la prison civile de Niamey. Mais alors des attaques des jeux à Niamey, alors évidemment, on ne sait pas d'où ça vient, mais en même temps, ça pose la question des menaces qui pèsent sur la ville de Niamey. Et il y avait déjà des chancelleries qui avaient déjà laissé croire que la ville de Niamey était une cible, qu'il pourrait avoir des attaques et tout ça. Et donc, il y a peut-être un système de renseignement qui s'est mis en marche, puisque nous, on a toujours interrogé le choix stratégique du gouvernement. On voit tous les investissements dans ce qui est matériel lourd de la défense pour équiper les FDS. Mais en même temps, on a toujours dit qu'il fallait les renseignements, il fallait développer les renseignements parce que c'est chaud, il faut avoir une longueur d'avance sur les terroristes afin de déjouer leurs actions.
Elhadj Souleymane Mahamadou, quelle appréciation vous en faites de ces actions, en tout cas qui ont permis de mettre hors d'état de nuire?
On ne peut que se réjouir lorsque, effectivement, nos forces de défense et de sécurité avoir à disposer de suffisamment de renseignements pour donc mettre hors d'état de nuire les terroristes. Ce n'est qu'une bonne chose. Mais vous savez, en amont, il y a cette polémique, l'alerte de l'ambassade de France sur ces questions-là, que Niamey, en tout cas le pays, est cible d'action terroriste. Ça fait le buzz sur les réseaux et franchement, c'est donc bon que cela vienne donc corroborer cette alerte. Et j'ai vu le communiqué de l'ambassade de France tendant à remercier les autorités nigériennes ou bien les forces de défense et sécurité nigériennes. Donc pour eux, ce qu'ils ont dit, notamment par rapport à un poste d'un Nigérien, en tout cas, qui a parlé d'attaque d'intérêt français au cas où il y aura attaque. Bref, il y a donc cette question, mais notre vœu en tant que citoyen, c'est qu'effectivement, ces renseignements soient efficaces. C'est-à-dire qu'ici, la critique des citoyens sur donc, ces partenaires qui sont présents, justement, c'est l'insuffisance de ces renseignements. Donc, nous pouvons demander qu'effectivement, que les services français, en tout cas américains et autres qui soient là, puissent davantage alerter en temps réel. Mais peut-être, moi, en tant que citoyen nigérien, je pense qu'ils pourraient le faire sans le dire publiquement. Parce qu'il faut le reconnaître, en ce moment-là, Niamey, c'est très sensible parce qu'avec l'événement qu'il y a en 2019, quand vous dites aux gens que y a des choses comme ça, franchement, vous faites une mauvaise communication pour le Niger parce que simplement, nous savons l'intérêt qu'il y a d'une telle rencontre parce que c'est inédit. Et franchement parlant, ça peut mettre un peu du doute, ça peut même décourager. Donc, de façon générale, moi j'ai dit que encore, et je pense que c'est le vœu de tous les citoyens nigériens, notre demande véritablement, c'est que, comme ils l'ont fait la dernière fois, on voudrait que nos partenaires, en tout cas, renseignent utilement, en tout cas, en temps opportun, pour nous permettre effectivement cela. Cela veut dire qu'effectivement, si les renseignements suivent, nos FDS font montre d'efficacité. Et je pense que véritablement, c'est là qu'on attend donc nos partenaires.
Bien. Et il y a Gare Amadou qui vient de nous rejoindre. Gare, et nous sommes en train de parler de ce sujet, notamment un certain nombre de terroristes qui ont été neutralisés à Difa et à Niamey la veille de la fête. Et comment vous avez apprécié ces actions des forces de défense et de sécurité?
D'abord, je rends hommage aux services de renseignement et aux services de sécurité qui ont pu neutraliser ces terroristes-là. Parce que les deux situations, au Difa et à Niamey, sont des situations quelque peu différentes. Puisque à Niamey, apparemment, c'est une cellule dormante qui devait agir, mais qui a été en tout cas neutralisée à temps. Ça montre effectivement, comme l'a dit Souleymane, l'efficacité des renseignements. Même si c'est vrai, le message des ambassades pouvait créer la panique au sein de la population parce qu'on dit d'éviter les attroupements alors que la veille de la fête s'approche. N'est-ce pas? Les gens vont au marché. Donc, c'est, comme l'a dit Souleymane, la façon dont la communication a été faite n'a pas été une bonne communication. C'est-à-dire que ce message-là devait être adressé uniquement au service de renseignement pour qu'ils puissent prendre des mesures sans que la population ne sache. Vous voyez, je vous rappelle ce qui s'est passé au niveau de l'attentat du Bataclan, le jour où les attentats du Bataclan ont eu lieu.
En France.
Voilà. Quand l'attaque au niveau du Stade de France, au moment où la France jouait contre l'Allemagne, n'est-ce pas? Il y avait le match France contre l'Allemagne. Quand l'attentat a eu lieu à la porte parce que les terroristes ne pouvaient pas rentrer, n'est-ce pas? Il a été donné instruction, n'est-ce pas, au service de sécurité, de tout faire pour que les entraîneurs, les joueurs et les supporters qui sont dans le stade ne soient pas au courant de ce qui se passe derrière. Parce que la panique peut créer autre chose encore. Donc, vous voyez. Et donc, je pense que ce message devait être uniquement, strictement réservé au service de renseignement. Donc, je pense qu'à l'avenir, c'est ce qui va être fait. Parce que quand on fait un message comme ça, les terroristes le voient. Puisque c'est partagé sur les réseaux sociaux, les touristes le voient aussi, ils ont les téléphones. Mais alors, quand vous faites un message comme ça, vous dites, non, attention, évitez les... Alors, parce que... Oui.
Gare, et on a vu quand même effectivement que ces chancelleries, notamment l'ambassade de France, en tout cas, avaient alerté. Quelle lecture, en tout cas, faire de cet avertissement qui s'est finalement avéré, en tout cas, qui a conduit à des arrestations?
Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la coopération dans le domaine du renseignement n'est-ce pas, elle peut porter ce fruit, elle peut permettre de sauver des vies humaines, aussi bien du niveau des forces de défense et de sécurité que des civils. Ça montre que, en fait, les Occidentaux ont la capacité, parce que c'est ça l'enseignement, ont la capacité d'avoir des informations stratégiques à des moments opportuns. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le territoire, la frontière du Niger est régulièrement traversée par les terroristes. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des informations quand une colonne de terroristes, parce que quand 100 terroristes viennent en moto, c'est pas deux terroristes sur une moto, c'est non, 100 personnes qui viennent, ou on dit une vingtaine de motos, ça se voit par satellite. Bon, c'est ce genre d'informations qu'on aimerait maintenant, n'est-ce pas, au vu de la polémique, parce que la population est en colère après l'attaque de Tongo Tongo, l'embuscade de Tongo Tongo. La population est en colère, la population se demande, mais ces forces occidentales qui sont ici, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous aident pas. Donc, je pense que là, on est sur une bonne piste. Maintenant, il faut nous aider, il faut nous donner aussi des informations. Quand vos satellites ou vos drones constatent qu'il y a des mouvements qui traversent la frontière du Mali, des gens en moto, une vingtaine de personnes en moto, ça se remarque très facilement. N'est-ce pas, une vingtaine de personnes en moto appuyées par trois véhicules, ça se remarque. Eh bien, ces informations-là, donner ces informations à nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent les appréhender avant qu'ils n'agissent. C'est tout ce qu'on veut.
Hassan Boukar.
Oui, sur les.
Est-ce à dire que, en tout cas, ces renseignements démontrent l'utilité de la présence des bases militaires étrangères au Niger?
Je ne dirais pas que ça montre l'utilité, mais ça montre, comme Garel a dit, qu'ils ont la capacité d'avoir
d'anticiper, d'informer.
Ils ont la capacité d'avoir des centres d'écoute, des renseignements, la capacité d'étudier les comportements des terroristes, prévenir des choses en fonction des types d'informations qu'ils ont, etc. Leur capacité d'infiltrer certains milieux. Il y a peut-être des choses que nous, on n'a pas, sur lesquelles eux, ils ont. Mais on peut interroger, alors pourquoi d'autres attaques plus importantes, on n'était pas informés, ces renseignements, ils les avaient peut-être déjà. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ils sont sous pression. D'abord, à la fois eux et le gouvernement. Le gouvernement a toujours défendu leur présence par le fait qu'ils sont là pour nous aider grâce aux renseignements. On se rend compte que, en tout cas jusqu'à ce cas qu'on discute, ces renseignements ne viennent pas. Et du coup, nos FDS se sont retrouvés pratiquement seuls face au feu. Ils ont porté le pot cassé, comme on l'a dit. Et donc aujourd'hui, ça pose véritablement le débat. Et je pense que la vision ou le regard porté par les populations du Niger, mais aussi dans d'autres pays de l'Afrique sahélienne, par rapport à ces forces qui sont installées, ça fait débat un peu partout aujourd'hui. D'abord, les gens interrogent l'efficacité de cette façon d'installer des bases partout, sachant bien qu'on a un type d'ennemi qui n'est pas une armée conventionnelle, les ressources qui sont engagées, le fait que les puissances occidentales veulent se substituer aux armées africaines au lieu de les renforcer, de les travailler à faire leur travail, ça pose un vrai débat aujourd'hui. Donc pour moi, le renseignement, et puis n'oublions pas que ce type de communiqué, là, Slomane et Garel le disent, les ambassades occidentales ont l'habitude de le faire pour leurs ressortissants. C'est-à-dire qu'ils le font en disant à leurs ressortissants, telle zone est une zone rouge, ne partez pas, évitez certains comportements. Mmh. Évidemment, aujourd'hui, en temps de réseaux sociaux, tout le monde s'est dit, mais alors, si vous le dites pour vos ressortissants, c'est que c'est aussi valable pour nous. Pourquoi? Donc ça pose aussi un vrai défi des communications. Mmh. Et je pense que les ambassades doivent apprendre à trouver une communication beaucoup plus appropriée s'ils s'adressent à leurs ressortissants. Mais quand vous dites évitez les lieux où les gens se rassemblent, vous semez la confusion.
Et Elhadj Souleymane Mamadou,
je pense encore une fois, ça interpelle parce que c'est vrai, en diplomatie, comme on dit, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais dans tous les cas, en matière de droits humains, en matière de tout simplement de règles de vie, vous ne pouvez pas mobiliser toute la population d'un pays par rapport à quelques personnes que vous avez dans le pays. S'il faut, comme l'a dit Garé, s'il faut communiquer, il faut vraiment adresser un tel message au service des renseignements pour prendre des dispositions, pour préserver la sécurité de tout le monde. Je pense que c'est cela qui...
Sauf que dans ce cas, je crois que le message, comme Hassan Boukar vient de le dire, c'est apparemment adressé aux ressortissants. En fait,
si vous voulez, comme vraiment on l'a dit, c'est l'inefficacité. Dans tous les cas, le discours officiel, le président de la République a toujours dit que sans leur renseignement, on n'entend pas, on ne voit pas. Mais en fait, au niveau des citoyens, et la situation est tellement compliquée, on ne voit pas véritablement l'efficacité. Sauf que ça met en doute, tout se passe comme si, en fait, même ces terroristes-là, en fait, c'est comme si c'était une instigation de leur part, en tout cas, pour en fait faire des actions eux-mêmes. Donc, vous voyez, cela veut dire que leur présence ici a créé beaucoup, beaucoup de suspicions, de sorte que même l'alerte pourrait être interprétée. Parce que le gars qui a fait le poste, dans le sens de dire qu'on va attaquer les intérêts français, dans sa compréhension, j'ai comme l'impression, il pense que c'est vraiment juste une manipulation, en tout cas une manœuvre des Français pour faire des actions. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est simplement cela, ce doute-là est justement suscité par l'inefficacité de leur présence.
Hassan Boukar,
sur les bases militaires. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte international où ces puissances sont en guerre. C'est une guerre de conquête d'intérêts. C'est une guerre face à la Chine. C'est une guerre des États-Unis contre l'Europe. Et toutes ces puissances s'installent aujourd'hui dans les régions du monde où il y a des intérêts évidents. Le Niger, au-delà de l'uranium ou du pétrole, c'est aussi une position stratégique. Ils sont aux portes de la Libye, qui est une puissance qui a énormément de pétrole. Ils sont aux portes de l'Algérie, qui est une puissance militaire très riche. Ils sont aux portes du Nigeria. Écoute, il y a aujourd'hui des intérêts évidents pour lesquels ces puissances sont là. Si vous voulez, on peut penser que cette question du terrorisme a créé le prétexte pour qu'eux puissent s'installer dans cette région du monde où ils veulent déjà s'installer de longue date. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a besoin de se dire, est-ce que leur présence a changé quelque chose? Et le citoyen nigérien est à l'aise pour dire, écoutez, ils sont là pour lutter contre la sécurité. Eux, ils sont là et on a la sécurité. Donc, la position du citoyen est tout à fait normale.
Garé, vous avez aussi eu ce sentiment, cette suspicion lors de ce message, en tout cas?
Non, ce message, moi, je n'ai pas eu de suspicion. Seulement, ce que j'ai dit, le défaut de ce message-là, ce qu'il a laissé à la population, mais malheureusement aussi
il a semé
il a adressé à la population mais aussi aux terroristes qui sont de la population, parce que bon, ils vont lire le message. Alors un terroriste qui voit que ça veut dire qu'on nous a détecté, c'est ce qu'il se dit. Ça veut dire qu'on nous a détecté, donc il change de stratégie. Si je veux attaquer ça, c'est pas ça que je vais attaquer, autre chose, ou bien au lieu qu'on attaque demain, il faut qu'on attaque aujourd'hui. Parce qu'apparemment, les gens sont au courant. Oui. C'est ça le truc, les méfaits de ce message pour le rendre public. Il ne faut pas le rendre public, il faut le donner aux services compétents pour qu'ils puissent agir. Oui. Voyez-vous, moi j'avais vu une vidéo de France 24 où on montrait l'efficacité des drones. Parce qu'on en est là. Alors, on a montré une image d'un drone qui filmait des terroristes qui étaient en train de poser une mine. C'était une mine qui était en train de poser. Hein. Oui. Et ils posent la mine, ils s'en vont. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, comme ce n'est pas un drone, mais on ne fait rien. Ils posent la mine. Dieu seul sait ce que la mine là a posé comme dégâts. Ils l'ont posé et ils sont repartis. Alors on pouvait voir l'immatriculation de la voiture. Ça veut dire quoi? J'ai dit, l'enseignement que ce message-là a donné, c'est l'enseignement que les forces étrangères, n'est-ce pas, si elles sont ici, elles peuvent être utiles. Mais il faut qu'elles montrent leur utilité. Parce que, je vous dis, l'attaque contre les soldats nigériens à Tongo, l'embuscade là, franchement, moi je ne donnais pas cher de la peau de ces troupes étrangères là. Je me disais, en tout cas tout le monde était en colère, c'était unanime. J'ai dit, c'est une colère légitime.
Bien.
J'ai dit donc, maintenant, je pense qu'ils doivent revoir leur copie et j'espère que cette fois-ci la coopération en termes de renseignement sera encore plus efficace.
Bien. Et passons toujours sur le volet, continuons toujours le volet sécuritaire. Comme vous le savez, le ministre de la Défense du Niger, Kalla Moutari, a séjourné aux côtés des soldats nigériens à proximité de la frontière malienne la veille et le jour de la fête d'Eid el-Fitr, une façon de les encourager. Alors, Garé, quelle lecture vous faites de ce geste du ministre de la Défense?
Oui, j'ai vu un journal qui dit que c'est une opération de com. Oui, mais soit, c'est comme ça que
une
ça se fait.
Opération de communication.
De communication. Mais c'est la défense, n'est-ce pas, ou la lutte contre l'insécurité, c'est d'abord les opérations militaires et les opérations de communication. Même si c'est une opération de communication, Kalla Moutari n'a pas commencé. Rappelez-vous, George Bush et les présidents américains qui vont en Irak parmi les troupes pour fêter Noël.
Mais au Niger, c'est lui qui a commencé, non?
Non, mais oui, mais c'est un bon signal. C'est extrêmement bon. C'est extrêmement important. Surtout dans ce moment-là, ces visites-là, au niveau des troupes, visent à, en tout cas, remonter le moral des troupes. Est-ce que vous comprenez? À encourager. C'est-à-dire que je vais au front avec vous, je vais fêter avec vous, je vais vivre dans les conditions dans lesquelles vous vivez pour qu'on puisse fêter ensemble. Les soldats étaient très contents. On a vu les images. Donc, je pense que c'est, même si les gens pensent que c'est une opération de communication, non, c'est un geste que le ministre de la Défense, en tant que première autorité militaire, bon, c'est pas le chef suprême des armées, deuxième autorité militaire,
que lui, il puisse partir au front pour montrer qu'il peut braver les dangers comme tout le monde, parce qu'on pouvait les attaquer, mais il va partir pour montrer que vous n'êtes pas seul, tout le monde est avec vous, et c'est pour ça que je suis venu. Donc je pense que c'est une opération qui doit être en tout cas répétée, et je pense que même les plus hautes autorités doivent en tout cas avoir ce bon comportement. C'est pourquoi je tire mon chapeau à Kalla Moutari.
Alhaji Souleymane Mahamadou.
Bon, je pense que comme l'a dit Gary, c'est une très bonne chose dans le sens effectivement de motiver, en tout cas de ça peut encourager justement dans un contexte où véritablement toute l'opinion publique réclame en tout cas plus d'efforts au niveau des autorités. Moi, je me souviens, on est allé en tant que journaliste sur un terrain. Les Américains nous ont amenés dans le cadre du philanthrope à vivre les conditions avec un camp militaire. Je vous assure que ça peut donner des idées et on a vécu aussi des simulations de situations donc des opérations. Ça peut donner véritablement l'idée davantage de manière concrète comment ces gens vivent. Bref, on pourrait dire que c'est son devoir. Il n'a pas besoin d'aller sur le train pour en fait faire ce qu'il doit faire. Mais je pense que ça vaut la peine. On a vu des ministres de la défense français, italien, en tout cas, qui venir ici juste pour venir voir leurs bases qui sont, en tout cas leurs militaires qui sont ici sur le terrain. Donc c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas quand même se leurrer. Au-delà de cela, il y a que la situation, elle est très grave. Elle est très grave et de cela, autorités, citoyens, tout le monde, la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Il faudrait qu'on dise en tout cas à nos concitoyens, ceux-là qui pensent que véritablement, quand il y a une situation, une attaque, on ne voit que l'autorité. Oui, l'autorité est c'est le premier responsable. Oui. Mais face au terrorisme, vous avez vu, même dans les pays occidentaux, en tout cas, on attaque. Oui. Vous ne pouvez pas faire de. C'est-à-dire que dans un contexte asymétrique, ça peut arriver partout. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique où l'armée fait face aux terroristes. Il n'y a aucun groupe qui peut, en tout cas, résister face à face à une armée d'un pays. Mais ces gens-là, ils se cachent. Ils ont l'avantage de se préparer davantage, de surprendre, de connaître le terrain pour se cacher. Et aussi avec les mines, vous voyez, on dit aujourd'hui que c'est une arme de lâche. Bref, c'est dire que véritablement, de mon point de vue, la question de sécurité, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire d'un régime, c'est une affaire de tout le monde. Et voilà pourquoi je pense que le plus important, tout à l'heure on parle de renseignements efficaces, c'est que aussi l'apport de population, que ce soit à Diffa, à Tillabéri, vous conviendrez avec moi que les populations locales doivent véritablement se dire que ce n'est pas en couvrant ces quelques individus, en tout cas, parce que certains, en tout cas, sont dans le terroir. Donc, il va falloir les dénoncer pour la sécurité de tout le monde, pour la sécurité du pays. Mais si on est complaisant, en tout cas, on ferme les yeux, soit par peur ou bien parce que c'est de notre, je pense que cela ne peut pas vraiment arranger la situation de tout le monde, la sécurité de tout le monde. Donc voilà pourquoi, de mon point de vue, je pense que c'est indiscutable. En tout cas, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, franchement, c'est que souvent c'est irresponsable. Et raison pour laquelle il faut encourager véritablement que sur la question de sécurité, il n'y a pas de tolérance zéro. Je veux dire que il va falloir se dire que vous ne pouvez pas souvent délibérant parce que vous êtes virtuellement caché sur un profil.
Dire ce que vous voulez.
En tout cas, des choses inacceptables. Il faut faire attention, c'est très sérieux en ce moment-là. Le pays est en tout cas dans une situation très périlleuse. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas, en tant que citoyens, nous contribuer à faire le jeu des touristes. C'est en tout cas mon sentiment.
Bien, là, Souleymane. Hassan Boukar, vous, comment vous appréciez cette visite du ministre de la Défense? Et comment vous analysez ce geste?
Moi, j'aurais voulu voir le président de la République. C'est quand même lui le patron de l'armée. C'est lui le chef suprême de l'armée. Gary a cité George Bush. On peut prolonger les exemples.
Macron était aussi là, ici. Au Niger.
Le patron de l'armée, c'est Issoufou. C'est-à-dire qu'il part... Le président Issoufou Mahamadou. C'est-à-dire qu'en tant que chef suprême des armées, il part passer un message aux troupes qu'il a envoyées au nom de la République sur le terrain de combat. Ça aurait eu une signification, même d'un point de vue politique, ça aurait eu une signification politique beaucoup plus importante, un impact beaucoup plus important. Ça montrerait l'engagement du président de la République qui part prendre des risques, y compris aller sur le front, en tant que chef suprême des armées. Donc, le ministre de la Défense l'a fait. Peut-être que moi, je comprends le geste du ministre de la Défense. Au lendemain des attaques de Tongo Tongo, il y a eu quand même beaucoup de réactions dans ce pays, aux côtés de l'émotion, c'est-à-dire d'une trentaine de personnes, d'une trentaine de jeunes, de nos frères, de nos fils qu'on a vus mourir de façon aussi dramatique. Il y a eu énormément de réactions sur le fait qu'ils sont jeunes, sur le fait qu'ils ont été exposés, etc., etc. La question qu'on ne se pose pas beaucoup, c'est quel effet ça a sur les troupes, les gens qui sont là-bas, sur leur morale, quel effet ça. Donc, dans un contexte comme ça, je pense qu'on devait s'attendre à un geste du gouvernement, à un geste de l'exécutif pour dire nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Je pense que de par le passé, il y a une marche pour soutenir les FDS. Et donc, dans le contexte actuel, je pense qu'un geste de l'exécutif était attendu. Et de ce point de vue, le geste de Kalla Moutari, on peut l'apprécier. Maintenant, là, Souleymane a posé aussi un débat de fond, c'est-à-dire notamment sur la collaboration, sur le rapport entre population et force de défense, sur le rapport entre des populations aux terroristes. Je pense que ça pose un débat de fond sur le lien entre les communautés et des membres ici de cette communauté qui posent des actes répréhensibles du point de vue de la loi, et le rapport de ces communautés à l'État. Pour beaucoup, l'État reste encore une réalité virtuelle. Et donc, les gens ont l'impression que, parfois oui, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens du tiroir, peut-être qu'ils ne nous attaqueraient pas, ils l'attaqueraient ailleurs, etc. Donc, on se donne du coup une fausse sécurité, parce que c'est une fausse, ça peut se retourner contre nous. Et donc, l'État reste pour beaucoup le territoire, les limites territoriales, etc. Il y a donc un certain nombre de choses que nous défendons aujourd'hui au nom du principe de l'État, de la démocratie, des questions de droit, qui ne sont pas nécessairement partagées. Et du coup, ça oblige aujourd'hui à la fois les FDS, mais aussi l'État, à travailler les communautés sur l'appartenance à une communauté de destin, sur l'appartenance à un pays, et la nécessité pour tous de défendre, de collaborer avec ces FDS. C'est quand même des gens qui partent défendre. Pour qu'on puisse dormir tranquille chez nous, il faut qu'eux, ils prennent tous ces risques. Et donc, ces jeunes, ils ont besoin, au moins, de ce type de collaboration de la communauté pour qu'ils ne soient pas exposés tels qu'ils l'ont été à Tongo Tongo.
Garé, vous voulez réagir rapidement?
Ce que je dis, je suis entièrement d'accord avec ce que Abba a dit, parce qu'il faut mettre un climat de confiance entre les FDS et les populations pour que la collaboration soit plus efficace. Je suis aussi d'accord avec lui que moi, j'aurais aimé quand même, c'est vrai, la visite de Kalla Moutari, elle est exceptionnelle, c'est vraiment très bien pour le moral des troupes, mais j'aurais aimé voir le président de la République en tenue militaire partir au front. Parce qu'on voit que certains chefs d'État, c'est ce qu'ils font. Même s'ils sont des civils, Bon, Déby, encore que c'est un militaire.
C'est un militaire.
Mais on a vu des chefs d'État qui sont civils, mais qui mettent la tenue militaire. Parce que c'est une symbolique. Qui vont au front, aux côtés des troupes. Et ça crée une situation. C'est-à-dire que le moral est galvanisé. Vous voyez le président en tenue militaire qui vient, qui vous salue, même si c'est un civil. Ça, j'aimerais bien voir ça un jour. Même si c'est à Diffa. Et Diffa qui l'a échappé belle. Parce que la contre la SONINEP, ça pouvait être catastrophique. Ah, j'ai dit, il dit fallait échapper belle. Et donc, je rends hommage aux FDS qui ont pu neutraliser non seulement la cellule dormante, mais aussi ces terroristes qui voulaient attaquer. Il paraît que 4 terroristes voulaient attaquer les installations de la SONINEP pour que ça explose et qu'on fasse un carnage. Parce que pour Chekaou, parce que c'est lui certainement qui a envoyé ces éléments-là, pour Chekaou, si tu n'es pas sous le califat, c'est que tu es contre.
On suppose.
Pourquoi? Parce que Al-Barnawi, lui, vous savez.
On sait qu'ils ont des stratégies différentes.
Al-Barnawi, il a interdit d'attaquer les civils, il a interdit d'attaquer les mosquées, il a interdit d'attaquer les marchés. Mais les cibles stratégiques comme les FDS, ça, ils attaquent. Mais Chekaou, lui, il considère que si tu n'es pas sous son califat, c'est que tu es son ennemi. Donc, on peut tuer toute la population de Diffa parce qu'elle n'est pas sous le califat. Mais concernant la neutralisation des cellules dormantes, aussi bien à Diffa qu'à Niamey, mais c'est deux cellules dormantes qu'on a neutralisées. Ça reste. Ils sont là. T'as vu que là, à l'aéroport, on a neutralisé des terroristes, non? Ça, c'est une cellule. Mais vous savez combien de cellules ils envoient?
Personne.
Qui sont prêtes à être opérationnelles à chaque mot d'ordre. Donc, il faut redoubler de vigilance. Il faut que ceux qui ont été arrêtés soient correctement, en tout cas sérieusement, cuisinés.
Interrogés.
C'est vrai. Il faut qu'ils soient cuisinés pour qu'ils puissent fournir des informations qui puissent permettre de neutraliser les autres qui sont encore au sein de la population.
Bien. Nous passons au dernier sujet de cette émission. Règles d'hygiène par rapport au transport de la viande 15 000 à 30 000 francs, c'est l'amende que paiera tout boucher qui ne respectera pas les règles d'hygiène dans le transport de la viande ici dans la ville de Niamey. C'est une décision qui est ressortie de la rencontre le 30 mai dernier entre les responsables de la ville de Niamey et ceux du syndicat des bouchers. Je vous propose d'ailleurs de suivre Elhadj Mohamed Magaji, président du syndicat des bouchers, au micro d'Asmana China.
Des mesures ont été prises dans le cadre du transport de la viande. Des amendes sont imposées. Il y a des gens qui ne prennent pas leur travail au sérieux car ils ne connaissent pas son importance. Mais comme ils ne veulent pas des amendes, ils sont obligés de se ressaisir. Celui qui viole les règles doit payer entre 15 000 et 30 000 francs CFA, selon le président de la délégation de la ville de Niamey. La viande transportée doit être couverte. Nous nous réjouissons de cette mesure, car ça ne fait que valoriser notre activité et ça y va de notre crédibilité.
Là, j'ai Mohamed Magaji, président du syndicat des bouchers, traduit par Asmana China. Elhadj Souleymane Mamadou, vous avez certainement appris cette nouvelle. Comment vous l'avez accueillie, cette annonce? Désormais, 15 000 à 30 000 francs, en tout cas, c'est les amendes que paieront les bouchers.
Au niveau de nos organes de presse, on a fait beaucoup de petits reportages pour dénoncer vraiment cette situation pour la santé de tout le monde. Franchement, c'est désolant de voir sur des motos, des carcasses de la viande, comment les gens roulent dans la circulation.
Avec la poussière, la fumée.
Maintenant, leur propre sécurité, leur propre vie. Absolument. Mm. Mais maintenant, en fait, c'est un problème vraiment de santé publique, franchement. Sinon, on ne peut qu'encourager cela pourvu que ça dure, pourvu que vraiment ce soit appliqué dans la lettre. Parce que, selon nos informations, c'est qu'au niveau même de l'abattoir, ils ont conçu des trucs de transport, en fait, mais en fait, les gens ne veulent pas payer les petits sous qu'on leur demande et ils veulent profiter avec leur moto, en tout cas, vous voyez quoi. Donc, franchement, je pense que c'est une question de discipline, de mesures comme ça, parce qu'en matière de santé, on ne doit pas badiner, en tout cas, avec la santé des gens. Ailleurs, quand même, même pas, en fait, pour dire que quelqu'un va avoir des problèmes gastriques, on va vérifier qu'est-ce qu'il a mangé hier soir. Mmh. On va vérifier, si jamais on a établi l'été de leur restaurant, on va aller au nouveau restaurant vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que peut-être que mieux vaut tard que jamais, on ne peut qu'encourager que, en tout cas, imaginez par exemple, bientôt on va accueillir des étrangers, quand les gens vont voir comment les gens transportent la viande, mais certains ne vont même pas manger notre viande. Donc franchement, je pense qu'il faut encourager le ministère de la Santé, en tout cas,
la ville de Niamey.
La ville de Niamey, en tout cas, pour cette mesure.
Ça, Gare Amadou.
Oui, il faut dire que vraiment, c'est Dieu qui nous sauve. Hein. Nous sommes résistants parce qu'avec ce qu'on mange comme viande, qui sont transportés dans ces conditions-là, on se demande comment est-ce qu'on fait pour rester debout. Mais j'ai vu une fois quelqu'un qui était à moto avec la viande derrière et quelqu'un était, il est assis sur la viande parce que c'est vrai, il avait une couche, un truc, un papier. Quelqu'un est assis sur la viande, il était en train de rouler, il partait pour aller vendre. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais comment est-ce qu'on a fait pour rester debout jusqu'à présent avec tout ce qu'on mange? Avec tout ce qu'il y a comme fumée, n'est-ce pas, effectivement, d'échappement.
Dans parce la que circulation.
Oui, parce que la moto déjà, elle dégageait une fumée noire, mais il s'en foutait. Il partait pour aller vendre. Et puis, c'est-à-dire que c'est au niveau même de l'abattoir qu'il faudrait interdire qu'on vende à quelqu'un qui vient prendre la viande si on sait que les conditions dans lesquelles il va les transporter ne sont pas. Il faut exiger à ceux qui sont venus récupérer la viande de voir d'abord avec quel matériel ils vont le transporter. Si c'est un véhicule qui est fermé, il faut qu'il soit frigorifié. Alors, si le véhicule n'est pas frigorifié, bon, on va faire avec les moyens de bord, mais il faut au moins qu'on puisse couvrir la viande parce que la viande, elle est périssable. Le problème, c'est que quand on la couvre pendant un moment, elle va pourrir. C'est ça, tous ces problèmes-là. Mmh. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait une organisation qui puisse permettre d'avoir des grossistes, n'est-ce pas, qui ont des camions frigorifiés et qui peuvent faire les quartiers pour désintéresser. Oui. Mmh. C'est ça seulement la solution. Mmh. Mais sinon, si c'est, on dit, il faut couvrir. Déjà, on leur avait dit de couvrir. Ils ont mis un petit papier. Ils mettent juste un petit papier. Hein. On voit toute la viande dehors. Et puis, ils circulent, on sait, en tout cas, sur les routes. Mmh. Maintenant, si on leur dit, ils vont couvrir tout le papier, mais on revient au même résultat. Mmh. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas vraiment optimales pour qu'on puisse consommer de la viande saine. Je pense qu'il faut qu'on trouve une organisation avec les grossistes qui sont... qui sont au niveau de l'abattoir, n'est-ce pas? Les commerçants qui ont pignon sur rue, qui régentent pratiquement tout le marché, n'est-ce pas? Et puis celui qui gère l'abattoir, et vraiment trouver un moyen pour que les gens ne puissent plus transporter la viande à moto. Parce qu'on en est là. Il s'agit d'interdire en fait le transport de viande à moto. Voilà.
Bien. Oui, Hassan Boukar.
Moi, je pense qu'il faut que ce soit le début d'un processus. Il ne faut pas qu'on le fasse simplement pour l'Union africaine. Il faut qu'on le fasse d'abord pour nous. Si on le fait pour nous-mêmes, pour la population nigérienne, ça veut dire qu'on ne s'arrêtera pas après juillet. On va continuer à le faire. À la veille des 5e juillet de la francophonie, rappelez-vous, il y a eu une initiative de ce type à l'endroit des vendeurs de viande. Par exemple, on avait conseillé aux vendeurs de clichy de mettre les clichy dans des vitres. C'est-à-dire que les clients peuvent les voir, c'est bien protégé contre la poussière, etc., etc. Mais après les jeux, on l'a abandonné, ça veut dire qu'on l'a fait juste pour les étrangers. Et donc, il ne faut pas qu'on le fasse simplement pour l'Union africaine. Mais aussi au-delà du transport de la viande. Moi, je vois bien ce que Gary et Solomon disent. Oui, quand tu vois les conditions dans lesquelles c'est transporté, ça fait peur, quoi. C'est-à-dire que heureusement que la viande est grillée à fond par le feu. C'est-à-dire que les microbes qui sont exposés. Là, notre chance, on a une façon de griller la viande qui fait que vraiment les microbes ne résistent pas parce que là, c'est mis au feu à fond pendant des heures au feu, etc., etc. Mais regardez, par exemple, là où ils s'installent, les vendeurs de viande. Ils peuvent s'installer à côté du dépotoir. Et donc, il y a toute une éducation sur l'hygiène.
Donc, au-delà même du transport de cette viande, mais regardez là où les lieux de vente.
Là où ils s'installent, à côté des égouts, à côté des dépotoirs. Donc, ça veut dire que c'est en fait l'éducation à l'hygiène qui manque. Et donc, ça ne peut pas se faire simplement par le décret. Ça peut être peut-être le départ. Mais il faut que ce soit un processus d'éducation et de sensibilisation.
Une sorte de chaîne.
Voilà, pour le consommateur nigérien, pas vraiment pour les étrangers. Mais que ça commence, si c'est bien fait pour nous, les autres trouveront leur compte. Quoi. Voilà.
Alors, cette mesure de la ville de Niamey n'est pas nouvelle, comme vous l'avez annoncé. En tout cas, par rapport même au transport de la viande, plusieurs mairies ont tenté d'interdire ces genres de transport de la viande. Quelle a été, selon vous, la raison qui bloque le respect de cette mesure tentée par plusieurs mairies? Hassan Boukar, continue.
Moi, je pense que les gens face auxquels on pose ces décisions, peut-être qu'ils ne sont pas, en fait, ils ne sont pas très conscients des enjeux qu'il y a derrière cette décision-là. C'est-à-dire qu'ils le font, quand tu dis c'est une interdiction, bon, c'est comme le port de casque, hein. Quand on voit les policiers, on le porte. Quand le policier n'est pas là. Donc, si les gens ne sont pas convaincus, en fait, ça pose toujours un problème. Et c'est difficile à appliquer. Pourtant, c'est une décision salutaire. Je pense que les bouchers eux-mêmes, ils devaient se dire, pour nos clients, pour des questions d'hygiène, on devait quand même améliorer ces choses-là. En fait, je pense que il y a un travail. Le fait de dire, j'interdis, si vous ne le faites pas, il y a une sanction, ça c'est une chose. Mais en même temps, il faut continuer à éduquer, sensibiliser sur le fait que c'est vraiment nécessaire, à la fois pour leur travail eux-mêmes. Ils ont besoin aussi de travailler dans des conditions d'hygiène, mais aussi pour les clients, il faut les sensibiliser, les informer. Je pense que c'est un processus. Si on le fait, si c'est suffisamment intériorisé, on n'aura pas besoin vraiment de... Ça ne coûtera pas cher. Mais dès lors que les gens ne sont pas convaincus, ça a toujours un coût de l'appliquer. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre un policier derrière chaque véhicule qui transporte la viande.
Ou chaque moto. Oui, Elal Souleymane Mamadou.
Oui, il a dit.
Oui, est-ce que vous êtes d'avis avec Hassan Boukar au-delà de la sanction
c'est des choses qui vont ensemble. Et d'ailleurs, de préférence, nous sommes en démocratie. En amont, il faut d'abord se communiquer et sensibiliser. Ensuite, à un certain moment, la menace, maintenant, on va la mettre en exécution. Par exemple, vous avez vu récemment, quand on allait interdire la mendicité, bien que ce soit encore, me semble-t-il, encore un autre cas,
sujet de débat.
Donc, c'est-à-dire que, véritablement, aujourd'hui, pour les casques, on voit toujours quelques récalcitrants, en tout cas, qui ne portent pas les casques. Oui. Mais, de façon générale, je pense que c'est deux choses. Et dans le contexte démocratique, pour le respect, en tout cas, des droits humains, il faut davantage sensibiliser, communiquer. Ensuite, maintenant...
Pour convaincre les gens.
Ensuite aussi, ça c'est aussi inévitable, le bâton aussi doit servir pour qu'on puisse effectivement y ait de l'équilibre en tout cas. Parce qu'en réalité, la fragilité, lorsque les gens constatent que beaucoup de laisser aller, parce que quand on veut une mesure, par exemple, telle que le port de casque, donc on dit qu'en fait, on a fait un truc pour les policiers. Alors que le policier va négocier, prendre quelques billets pour laisser passer... Mais les gens sont habitués à faire cela. Donc, véritablement, il va falloir que c'est un tout global. Et ceux qui sont censés appliquer ces mesures doivent aussi vraiment comprendre que ce n'est pas de la blague. On doit aussi faire la police doit en tout cas aussi les suivre. Donc bref, dans ce pays, en tout cas, en matière d'application de la loi, on a beaucoup de difficultés. Souvent, les autorités prennent des décisions, mais on se rend compte que ce n'est pas appliqué. À un certain moment, on abandonne carrément, on revient aux mauvaises pratiques. Et c'est bien dommage.
Gare Amadou, pour vous, qu'est-ce qui bloque ce genre d'initiative? En tout cas, pour le cas du transport de la viande, ce n'est pas la première fois qu'on interdit. Oui. Après, on oublie, les gens reviennent aux anciennes pratiques.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Vous savez, ils ont expliqué la situation des mendiants. Il y a des mendiants têtus. Il y a des bouchers têtus aussi. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce qu'il faut, c'est que quand on met en place cette mesure, il faut aussi créer les conditions de son application. Le policier de la circulation n'est pas là pour arrêter les bouchers. Il est là pour vérifier si le boucher a les pièces à règle pour sa moto et s'il n'a pas brûlé un feu rouge ou s'il respecte le code de la route. Ce qu'il faut, c'est une brigade sanitaire. On peut poster des gens aux différents carrefours.
Ils ne feront que ça.
On les poste aux différents carrefours, on connaît les ronds-points, on sait que tous ceux qui sortent, ou bien au niveau de l'abattoir, vraiment à des points stratégiques, on peut poster des gens, des éléments de la brigade sanitaire. Mais avant cela, il faut sensibiliser d'abord les bouchers qu'il y aura des éléments de la brigade sanitaire qui vont être là et qui vont vous arrêter. Si votre viande n'est pas dans les règles, c'est très simple, on vous arrête, n'est-ce pas? Et eux, ils ont un camion frigorifique dans lequel ils vont le mettre. Et vous avez perdu. Vous allez payer l'amende. Et puis, vous allez là-bas à l'abattoir. Vous présentez la quittance sur laquelle vous avez payé l'amende. Et vous récupérez votre viande. Et cette fois-ci, dans de bonnes conditions. Il faut que la brigade sanitaire fasse son boulot. C'est le problème du suivi. Vous avez vu, les mendiants, on les a chassés. Mais de façon sournoise, ils reviennent. Vous comprenez? Ils sont pas aussi nombreux, mais ils sont stratégiques. Ils changent de stratégie. C'est-à-dire que là, dès qu'il y a un feu rouge, les voitures sortent. Vous les voyez sortir. Et puis, ils viennent. Ils essaient de gagner ce qu'ils peuvent. Après, quand le feu rouge, ils se retirent. Ils ne font plus les attroupements. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est le problème
moi,
de l'autorité.
Je m'interroge. Hein,
c'est le problème de l'autorité. C'est-à-dire que quand vous mettez en place une mesure, il faut que vous puissiez vous donner les moyens de la suivre. J'ai dit, la brigade sanitaire, c'est maintenant qu'elle doit montrer son efficacité. Vous comprenez? Et quand vous interdisez au mandat de s'attrouper, il faut que vous vous donnez les moyens de pouvoir, quand vous voyez un attroupement, mais il n'y en a pas. Et je vous dis, les mendiants se sont réorganisés. C'est une stratégie. Ils se sont réorganisés.
Hassan Boukar, vous voulez ajouter cet aspect, notamment le fait de savoir même qui doit s'occuper réellement de...
C'est-à-dire que quand vous prenez une décision avec une sanction au bout, mais qui l'applique?
Qui est censé appliquer?
Moi, je le posais en particulier sur le cas des mendiants. En fait, je suis en train de m'interroger sur l'étendue d'une ville comme Niamey. Comment faut-il faire pour contrôler? En fait, je me pose ce type de questions. Au-delà, dans les principes, si vous dites qu'il y a telle chose, il faut toujours dire au bout qui applique cette sanction. Donc, il faut qu'on le sache.
Oui, pour finir, Gary.
Autre chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des mesures qui sont uniquement destinées à lui
pour un événement.
Non, ça, il faut qu'on arrête ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit, comme il a dit,
sur le long terme.
Oui, le début d'un changement de comportement à long terme. Point.
Souleymane, vous avez quelque chose à dire
pour... Absolument, c'est cela. Vraiment, il faut que mettre du sérieux. La mairie a pris des décisions, il faut qu'elle l'applique, parce que au finish, comme l'a dit Hassan, ne pas tout faire pour le 19, pour lui à 2019. On attend de voir après, est-ce que véritablement l'intention elle est vraiment pour les populations nigériennes. C'est cela, en fait.
Bien.
Ne faisons pas le truc vraiment pour faire, parce que simplement on a les étrangers.
Et c'est ici que prend fin le forum de la presse d'aujourd'hui. Nos invités étaient Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Elhadj Souleymane Mahamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter, et Hassan Boukar, journaliste à la radio Alternative. Présentation à Alassane Kouzi Mahamadou. La technique est assurée par Seyni Isaka. N'oubliez pas le nouveau programme Jeunes, c'est samedi et dimanche à 2h-17h avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, samedi et dimanche, le forum en Hausa d'abord le samedi, et c'est lui en Zarma dimanche à 18h15. Bonsoir.